en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous écouter sur Canal Académie, la radio web qui donne la parole aux académiciens. Aujourd'hui, Jean-Pierre Sodini de l'Académie des inscriptions et belles-lettres nous parle d'archéologie, l'archéologie byzantine, paléochrétienne en Syrie. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Vous savez faire parler les marbres, les pierres, le mobilier archéologique, les mosaïques, les céramiques, les objets métalliques dans toutes sortes. Vos nombreuses campagnes de fouilles et vos contributions de toutes sortes ont ouvert de nouveaux horizons, de nouvelles lectures de l'archéologie religieuse et urbaine et de l'habitat urbain aussi. Ce matériel archéologique a trouvé ses dimensions historiques dans vos ouvrages et vous avez souhaité évoquer l'Antiquité tardive du 4e au 7e siècle. Jean-Pierre Sodini, qu'est-ce que l'archéologie vous a appris sur cette période et pourquoi est-elle si importante? Et puis, tout d'abord, que signifie le terme paléochrétien?
Alors, le terme paléochrétien renvoie forcément à la christianisation et on pense tout de suite aux églises. Et ce que j'ai découvert, bien que j'ai fouillé beaucoup d'églises, c'est que les gens ne vivaient pas que dans les églises et qu'il y avait autour toute une civilisation, non seulement un habitat, mais aussi des échanges, une vie, et que, au fond, la foi, l'église, n'était pas l'essentiel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a choisi le terme d'antiquité tardive, qui correspond bien à la période étudiée et qui définit mieux sa globalité.
Oui, c'est-à-dire que tout n'est pas sacré, il y a aussi du profane.
Voilà. Et alors, encore des païens, d'ailleurs.
Donc on va commencer par parler de profane et ensuite peut-être de sacré. Qu'est-ce que témoignent toutes les trouvailles archéologiques sur les villes, les églises, les monastères, les échanges économiques de cette période? Et puis ensuite, moment sacré, on parlera du monachisme syrien avec Siméon le Stylite,
très
le
volontiers.
Personnage haut perché.
Absolument, 17 mètres je crois.
Alors les villes.
Alors effectivement, ce qui est intéressant pour comprendre la période, c'est que c'est une période où la mer sert de voie de circulation, meilleur marché, plus rapide, plus sûr en dehors, évidemment, des tempêtes. Et donc, à partir de cette évidence, on s'aperçoit que cette civilisation est une civilisation côtière qui se développe non pas dans les montagnes reculées, mais sur les bords de la mer, et que les villes les plus développées sont des villes côtières, par exemple, comme Antioche, comme Alexandrie, comme Constantinople, qui est la capitale donc, de ce nouvel empire, et Rome, de toute façon, qui continue à survivre et même à bien se développer jusqu'au 5e et voire 6e. Après, il y aura une baisse assez forte, un peu comme partout. Donc, toutes ces villes-là sont près des côtes, vivent de la côte et sont en relation, en tout cas, avec les autres régions.
Pourtant, vous avez fait des fouilles dans l'arrière-pays.
Alors,
dans l'Asie mineure, vous avez...
En Asie mineure, la côte est tout près. La ville est Xanthos, mais le port est Patara, donc le port où Saint-Paul a débarqué. Et donc, là
mais
aussi...
en Syrie centrale?
Alors, en Syrie, je n'ai pas fouillé... En Syrie, j'ai fouillé une zone qui, effectivement, est très intéressante, qui est le massif calcaire. Parce que là, j'ai découvert que c'était une région qui était peu développée jusqu'au fin troisième siècle. Il y avait des grands propriétaires d'Antioche qui avaient là leur réserve de chasse ou qui pratiquaient une culture extensive, c'est-à-dire avec peu d'habitats et des rendements probablement un peu faibles. Et ce que j'ai constaté pour l'époque qui m'intéresse, c'est-à-dire à partir du 4e siècle, c'est qu'il y avait une population très dense qui s'installait là. Ce n'était pas le résultat de la natalité. La natalité ne pouvait pas expliquer cette multiplication de sites, de villages, sur des régions où vous n'aviez que de quelques grandes villas pour des intendants qui géraient les fermes ou les territoires ou les terrains des patrons, de leurs propriétaires, disons, qui séjournait à Antioche ou à Alep, donc Béroé à l'époque paléochrétienne. Donc, ça m'a interpellé. Alors, dans le cas précis, il peut y avoir plusieurs explications. Il peut y avoir d'une part le reflux de réfugiés chrétiens à partir du moment où Julien a perdu certains territoires au nord de l'Euphrate, dans la région de Nisibe en particulier. Donc les gens se sont repliés. Et puis, bon, ils se sont repliés, ils pouvaient se replier sur Antioche. Pourquoi le massif calcaire? Je pense qu'ils ont choisi ou qu'ils ont été casés là parce que c'était des zones qui étaient à faible rendement mais qui du coup sont venues intéressantes parce que les agriculteurs là pouvaient en attendre des profits plus élevés que dans une période de récession. Il y avait une demande. Et s'il y avait une demande, c'était précisément, c'est là où on retrouve la mer, les contacts avec les ports, le besoin d'huile, d'olive, le besoin de vin, qui, dans toute l'Europe et dans toute l'Afrique du Nord, et vous aviez cette circulation de produits qui allait jusqu'en Angleterre même, puisque jusqu'en Cornouailles, on a trouvé des monnaies byzantines et on sait qu'il y avait des patriarches d'Alexandrie envoyés des bateaux là pour aller chercher l'étain. Donc, même si c'est dans un village reculé, dans une zone reculée, disons, dans un massif calcaire qui est peu rentable, ça obéit au même phénomène. C'est-à-dire l'importance du commerce qui prend à ce moment-là son essor dans la Méditerranée fait que des zones qui étaient peu rentables dans une économie fermée deviennent rentables parce qu'elles peuvent exporter. Et donc, c'est au fond toujours la mer qui nous fournit l'une des clés de cette civilisation d'Antiquité tardive, comme elle a fourni des clés pour la Grèce, pour Rome.
Alors, qu'aviez-vous trouvé dans les habitats ruraux?
Alors, ce que j'ai découvert, c'est une civilisation urbaine qui se maintient avec certains changements. Disons que, par exemple, le théâtre est assez vite abandonné. Les termes, finalement, végètent, ou du moins deviennent davantage pudibonds, c'est-à-dire les ouvertures diminuent. On sent bien que, même si la pratique du bain continue, celle de la palestre, du sport de plein air, même si les Jeux olympiques continuent à Antioche jusqu'au VIe siècle, on se rend bien compte qu'il y a une sorte de pudeur du corps qui apparaît à ce moment-là et qui est incontestablement un arrière-produit du christianisme.
Oui, parce que le christianisme a déferlé.
Oui, c'est ça, il est devenu une exigence, mais le mot déferlé n'est pas exact. C'est une exigence qui a mis du temps à s'imposer. Et il y a eu des troupes d'avant-garde, qui sont les moines, qui étaient un peu le bras spirituel et aussi temporel de l'Église, parce qu'ils étaient prêts à se battre pour leur foi. C'était des gens très animés par leur foi.
Et je crois qu'ils ont participé à des commandes de destruction des temples originels.
Ils sont intervenus effectivement dans la plupart des régions, en Égypte et même pour le massif calcaire, donc à Apamée. C'est un évêque Marcel qui a détruit le temple de Zeus, Baal, à Apamée, qui était un lieu oraculaire très important. Et au fond, ce que voulait le christianisme, qui était devenu religion licite et puis religion d'État à la fin du IVe, c'était éviter qu'il y ait, au fond, cet intérêt pour tout ce qui pouvait soit améliorer, permettre de connaître l'avenir, c'est-à-dire les lieux oraculaires étaient des lieux qui n'étaient pas trop bien vus, tout ce qui pouvait guérir, parce que les temples où on pouvait trouver la guérison étaient des lieux attractifs. Et donc, elle a voulu, au fond, amener une sorte de déprise de toute cette culture séculaire que les populations avaient acquise au contact des sanctuaires, au contact des lieux de guérison, au contact de la magie aussi, qui est ce qui se pratiquait beaucoup à l'époque romaine. Donc, vous voyez comment ça s'est fait. Mais les gens ont résisté. Et donc, jusqu'au VIe siècle, vous avez un paganisme rémanent.
Oui, et on constate que le christianisme était loin d'avoir gagné l'ensemble de l'opinion, finalement.
Absolument. Il a gagné assez vite certaines élites qui ont pu faire carrière à partir du moment où c'est devenu une religion qui ouvrait des voies à des postes d'État. Il y a eu ensuite le haut clergé, qui était un clergé finalement de grandes familles qui avaient autrefois été païennes et qui, pour certaines, se sont christianisées. Et puis, il y a eu les moines dans les campagnes. Et donc, il y a eu une espèce de tentative d'unification de christianisation de la population, avec, comme vous l'avez souligné, des luttes contre les païens, mais aussi des luttes contre les juifs, qui étaient considérés comme les bourreaux du Christ. Et donc, c'est ce qui est intéressant en archéologie, ce que vous constatez, c'est que vous trouvez une église à Ouarté, en Syrie, qui est bâtie sur un ancien mitréum, que vous trouvez telle autre église qui a été bâtie sur un temple ou sur une école de philosophie païenne. Donc, les monuments sont témoins de cette lutte pour la christianisation.
Tout à l'heure, vous avez parlé de mitréum, c'était au dieu Mitra.
Voilà, absolument.
Donc, le dieu solaire venu un peu d'Orient
et qui
va venir jusque chez nous, d'ailleurs.
Oui, mais c'est à la même époque. De toute façon, c'est l'armée qui véhicule un peu ses croyances. Et on le sait bien, parce qu'il y a une ville de garnison comme Doura Europos, vous aviez à la fois une forte communauté juive, vous aviez un mitréum et d'autres divinités. Et puis, vous aviez donc aussi la maison des chrétiens qui a fonctionné vers 230 et jusqu'en 256, à partir du moment où vous avez eu la grande victoire des Perses qui sont emparés de Doura. Donc, ces lieux qui étaient très isolés et qui étaient dus à des soldats qui voyageaient, qui pouvaient se convertir, ou à des recrues qui étaient de ces régions-là, ont fourni les premières bases. Vous aviez aussi des communautés juives qui étaient mal distinctes des communautés chrétiennes. Il y a eu tout un travail que l'on connaît mal dans les détails qui fait qu'effectivement, au IIIe siècle, vous avez déjà des milieux chrétiens. Mais la christianisation efficace ne s'est faite qu'à partir du moment où c'est devenu la religion licite, puis la religion d'État à la fin du IVe.
Alors, en tant qu'archéologue, vous êtes dans une région extrêmement sujette au séisme. Il y en a eu de petits, de plus grands. Je crois qu'il y en a eu un très grand à la fin du VIe. Pour vous, ça doit quand même être très gênant, parce que ça parasite un petit peu l'explication, non ?
Pas tellement. Si vous êtes à l'échelle d'un site urbain, vous pouvez déterminer, par exemple, les différentes phases. Les séismes aident à déterminer les phases, parce qu'on sait qu'il y a, par exemple, pour Antioche, vous avez un séisme en 115, vous en avez un autre qui se passe dans les années 450, et puis vous en avez deux autres en 526, 528, peut-être un autre en 565.
Alors au contraire, ça vous permet d'avoir une classification ?
Eh oui, une classification, et parce que les reconstructions ne se font pas en déblayant. Les reconstructions se font en laissant une partie des déblais et en construisant dessus. Donc on a réellement, dans ces régions sismiques, de quoi trouver. Et les fouilles récentes de Beyrouth montrent bien justement l'importance, par exemple, du tsunami de 551, et on voit les zones d'abandon aussi. Ce n'est pas uniquement forcément le millefeuille, mais vous avez des zones qui ne sont pas reprises et vous en avez d'autres qui sont reprises. Et quand il y a une reprise, ça prouve le dynamisme de la région. Parce qu'il y a des régions où, quand survient un tremblement de terre, l'économie ne permet pas la reconstruction. Et là, vous avez des abandons quelquefois de sites.
J'imagine que les villes côtières sont toujours reprises.
Et oui. Mais enfin, sur Antioche même, par exemple, vous aviez le palais impérial, la cathédrale, des installations importantes qui se trouvaient dans une île de l'Oronte. Et à un moment donné, au VIe siècle, à la suite des tremblements de terre que j'évoquais, donc celui de 526-528, les ingénieurs qui entouraient Justinien ont décidé de ne pas reconstruire là parce que les dégâts étaient trop importants et ils se sont repliés sur la rive du fleuve.
Comment arrivez-vous à sortir ces petits mobiliers ? Je ne parle pas de ce qui est dans les sarcophages, où ça, c'est différent, parce que ils étaient en boîte, si je puis m'exprimer ainsi.
Absolument. Mais enfin, c'était des biens qui avaient été acquis aussi, normalement, par le commerce. Donc, ils sont déjà des témoins des transports.
Oui, c'est très utile. La moindre boucle de ceinture, elle, en métal, évoque beaucoup de choses. Mais pour le petit mobilier de ces sites détruits, c'est le toit qui tombe dessus.
Voilà.
Après, comment ça se passe pour essayer de trouver ce qui vient du toit,
On essaie de comprendre. C'est un puzzle. Alors, il faut choisir vite, mais on essaie de réfléchir à partir des coupes que l'on voit ou à partir de ce qu'on sent quand on fouille. Et alors, chaque fouille a ses caractéristiques. Disons que pour les régions méditerranéennes, qui sont des régions avec l'habitat que nous connaissons encore dans le Midi, effectivement, vous avez les couches de tuiles. Vous pouvez avoir ensuite une couche de boue qui sert, ou d'argile, qui sert à caler les tuiles de manière à ce qu'elles ne soient pas bancales. Donc, elles sont planes. Après, bon, le bois, vous ne l'avez plus. Et puis, vous trouvez ensuite soit des restes de plancher. Ça nous est arrivé à Calatzémane. On a eu deux attaques coup sur coup avec deux niveaux de plancher, dont un avec encore des squelettes qui étaient descendus en même temps que le plancher. Et donc, on a pu étudier et dater un événement qu'on connaissait par ailleurs par les sources, qui était une invasion, une attaque des armées égyptiennes contre le monastère de Saint-Siméon en 1017. Et là, on a pu la caler très étroitement, enfin à 4-5 ans près. Donc, on est retombé sur cet événement connu par les sources. Et puis ensuite, vous avez les sols, vous avez les fondations que vous pouvez fouiller. Et puis donc, vous rebâtissez une histoire de l'habitat. Mais l'archéologie est très intéressante parce qu'elle fait non seulement le lien entre, disons, les couches. On croit souvent que c'est une affaire de mille feuilles, mais aussi les murs. Et elle fait les liens aussi entre les structures. Entre les structures, vous n'avez pas de vide. Vous avez des murs de clôture, vous avez des chemins. Et donc, c'est une connexion qu'elle établit. Et ce qui était formidable pour le massif calcaire, ce qui l'est moins, j'ai commencé en 1974. Maintenant, je peux dire qu'avec la démographie, toutes les murettes, les propriétés, toutes les petites installations, les petits fours à pain, tout ça saute. Et nous perdons effectivement un territoire qui était un continuum de structures. C'était magnifique. Quand vous avez des photos, par exemple, aériennes prises en 1930, vous le lisez ouvertement. Vous avez un paysage agraire fossile sous les yeux. Et ceci est malheureusement maintenant mité complètement par des nouveaux habitats. Et donc, l'État syrien essaie de sauver ce qu'il peut. Mais c'est clair que les vivants aussi ont le droit à la parole, que les vivants peuvent s'opposer au gouvernement. Et dans tous les pays, au fond, on essaie de contenter les vivants et de sauver la part des morts, mais qui se restreint de plus en plus.
Oui, c'est le métier des archéologues, de sauver la part des morts.
Voilà, en quelque sorte.
Tout à l'heure, vous avez parlé du martyrium de Simon le Stylite.
De Siméon le Stylite. Alors, effectivement, ça a été... J'ai commencé à fouiller un village, qui était le village de Dahès, dans le massif calcaire. Et là, on a montré simplement ce que pouvait apporter l'archéologie. Par rapport au relevé d'architecture pure et simple, le grand génie des massifs calcaires, ça a été quelqu'un qui avait été formé au Bauhaus, c'était un excellent architecte, qui était Tchalenko, qui était un ami de Sérig, et qui donc a relevé tous ces villages, enfin beaucoup de ces villages. Mais alors, il avait les pures... Élégante et sélective. Donc, il avait, par exemple, dans ce village, il avait isolé ce qu'il pensait être un marché fermé, entouré régulièrement de portiques. Et nous, ce que la fouille a permis de montrer, c'est qu'il s'agissait d'un hameau qui se développait en deux périodes, fin 4e et puis début 6e, et que là où il voyait une place commune, en fait, il y avait des murs de clôture qui délimitaient l'espace de 5 ou 6 maisons qui se développaient, qui étaient des unités indépendantes. Et puis en plus, on a pu dater, parce qu'à partir du moment où vous ramassez du matériel de fouille, vous pouvez arriver à dater, c'est un peu technique, parce qu'il y avait beaucoup de remplois, vous avez beaucoup de matériel qui est brassé dans les remblais. Mais vous pouvez sélectionner des fois un matériel qui d'une part est bien daté, et qui d'autre part apparaît pour une première fois. Donc là, ça vous permet de dater des couches, et donc d'arriver à une assez grande précision.
Parce que sur même 5 cm de haut, une couche vous raconte toute une période, toute une façon de vivre.
Moi, je ne suis pas un préhistorien. Disons que les couches paléochrétiennes peuvent être des couches minces, mais vous pouvez avoir aussi des couches de destruction, vous pouvez avoir des couches qui peuvent être assez épaisses. Une couche de destruction, c'est généralement un mur qui s'effondre ou un autre ensemble qui s'effondre ou une couche de toiture. Ou vous avez... Alors, toutes ces couches sont intéressantes. Les plus intéressantes, je dirais, sont les couches d'incendie. Quand vous avez une destruction, même minime, une porte qui prend feu, par exemple, ce qu'on a eu à DS, elle gèle un moment et si elle n'est pas reprise, si on remblait dessus, là, vous avez là quelque chose de merveilleux.
Parce qu'elle est pétrifiée.
C'est pas Pompéi à ce moment-là, ni Herculanum, mais oui. À sa manière, pour nous, ça parle parce que le matériel est en connexion. Pour la cuisine de DS dont je parle, on a retrouvé le four sur lequel on faisait cuire la nourriture. On a retrouvé tous les pots qui étaient disposés, qui avaient juste été basculés. Et on a même retrouvé des restes de graines. Donc, on a eu ce que les gens mangeaient lorsque, bon, pour quelle raison, je n'en sais rien, il y avait eu cet incendie dans le secteur. Donc, c'est effectivement, toutes les couches n'ont pas les mêmes valeurs. Tous les sédiments n'ont pas la même valeur. Mais bon, sur le cumul, on arrive à avoir un bilan plus ou moins homogène. Mais qui ne restera jamais totalement homogène sur un site. Parce que vous avez des régions portuaires, vous avez des régions qui sont des régions d'habitat, vous avez même à l'intérieur des régions d'habitat qui sont abandonnées, d'autres qui sont nouvelles. Donc, l'histoire d'un site s'écrit par très nombreux sondages et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que vous pouvez arriver à maîtriser à peu près l'histoire d'un site. Pour faire parler les objets, c'est intéressant aussi parce que comme c'est des biens qui voyagent, comme tout s'échange, et même quelquefois sur toute la distance de la Méditerranée, vous pouvez avoir dans d'autres sites ce qu'on appelle des contextes bien datés. Et c'est ces contextes bien datés qui, quelquefois à 1000 ou 2000 kilomètres de distance, vont vous donner des dates précises pour vos fouilles. C'est le cas par exemple de la céramique d'Afrique du Nord, qui est une céramique de table très bien, très caractéristique, très bien étudiée aussi, il faut bien dire, parce qu'on a maintenant les fours, on a eu de multiples une typologie. Bon, je vous passe sur les typologies, mais quand vous le trouvez en fouille, si vous n'êtes pas dans un remblai, parce que là, ça pose le problème des matériels déposés, redéposés, mais si vous êtes dans une couche, disons, liée à un événement, j'évoquais l'incendie, mais ça peut être une couche où le matériel a l'air ne pas être remblayé aussi, ça peut être une couche de destruction ou une couche qui a été surmontée par une autre et qui correspond à un état antérieur. Vous avez des monnaies, d'une part, ce qui vous permet de dater. Si vous avez un cas comparable, à ce moment-là, tout peut parler. Parce que tout indique un message, une arrivée de quelque part, ça indique des échanges. Et la cartographie des échanges est quelque chose de très fréquent en archéologie de l'Antiquité tardive. Ce qui me fait énormément plaisir, parce qu'au début, c'était là. Quand j'ai commencé en 65, 66 à m'y intéresser, c'était une terra incognita. J'évoque quelquefois les blancs des manuels scolaires, mais nous en étions là. Et donc, ce que j'ai vu s'établir dans le courant de ma vie, ça a été toute une histoire tirée à partir des échanges, des constructions. Et les textes n'ont pas évolué. Vous avez de meilleures traductions maintenant, c'est plus accessible, de meilleures éditions. Mais ce qui a évolué, c'est l'étude de la culture matérielle. Et ça, ça nous apporte des données significatives, quoi.
Les monnaies surtout, parce qu'elles, elles ne mentent jamais. Ce que vous trouvez, c'est sûr. Alors, que vous faites des échanges, vous pouvez
les
voir.
Les monnaies ont des durées de circulation, mais elles offrent, oui, des termes. Elles permettent de marquer des périodes. Le cas le plus net, par exemple, j'en parle souvent, c'était dans l'île de Thasos que j'ai fouillé. Nous avons constaté avec l'ensemble des fouilleurs qu'il n'y avait pas de monnaie après 619. Et donc, alors, j'ai pu corréler ça avec des textes qui montrait que les Slaves avaient pris leur monoxyle. Bon, ce n'est pas des bateaux sensationnels, parce que c'est petit et c'est instable, donc c'est des troncs d'arbres creusés, mais qu'ils avaient probablement fait peur. Ils n'étaient pas venus jusqu'à Thasos, parce qu'on n'a pas trouvé, et encore, on a peut-être trouvé des traces de leur céramique. Donc, ils sont peut-être arrivés à traverser ce bras de mer qui n'était pas très grand, entre donc, la côte Thrace et Thasos. Et là, effectivement, on tient l'explication. Alors, ce qui est intéressant aussi dans notre cas, c'est que les archéologues grecs ont prétendu qu'il y avait eu un tremblement de terre. Et j'ai fouillé un infé qu'on est en train de publier dans une maison. Et effectivement, à cette date, il y avait une monnaie d'Héraclius. On voit bien qu'il y a un tremblement de terre. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que ce tremblement de terre n'est pas reconstruit, n'est pas repris. Ceci veut dire que la région a été secouée par autre chose que le tremblement de terre et que là, la crainte des habitants fait qu'ils se sont réfugiés. Alors, l'important serait de savoir où ils se sont réfugiés. Mais là, ça suppose des enquêtes multiples et il faut espérer sur les hauteurs pouvoir trouver un abri où ils ont pu aussi bien prendre les bateaux et partir sur la côte Thrace et abandonner l'île. Ça peut arriver, encore que Thasos soit un peu grande. Mais enfin, c'est des choses qui arrivent.
I ne povedi nas svoje iskušenje, no izbavi nas od luka.
A Thasos, il y a des marbres magnifiques.
Alors Aliki, là aussi,
c'est Aliki.
C'est Aliki. Alors Aliki, ça m'a beaucoup amusé parce que on va croire que je suis un anti-classique farouche, mais c'était donné comme une carrière classique par d'éminents collègues et des gens que j'ai beaucoup aimés, comme Roland Martin, qui a été autrefois à l'Académie, qui avait beaucoup travaillé sur les carrières de Thasos. Et c'est une histoire que je raconte souvent. Bon, les fouilles, vous savez, ont commencé le matin à 5 heures et on travaillait jusqu'à 2 heures, 3 heures sur la fouille. Après, il fallait inventorier, etc. Donc, un matin, je me suis promené là, juste avant que les ouvriers arrivent ou que les ouvriers commencent, et j'ai assisté au lever du soleil. Alors, un moment d'émotion, mais quand j'ai regardé les parois des carrières, j'ai vu une quantité de croix extraordinaire. Et alors, ça m'a fait rire, et j'ai cru que bon, je faisais un rêve, et puis bon, le lendemain, j'ai localisé les croix. C'était des croix qui étaient incisées. Donc, c'est-à-dire qu'elles étaient visibles 5-10 minutes. Après, ben, on ne voyait plus rien. Mais alors, on les a relevés, on les a étudiés, et on a découvert effectivement que ce marbre d'Aliki qui avait été exploité dès l'époque archaïque, lorsque les Pariens étaient venus coloniser l'île de Thasos, qui avait continué ensuite à l'époque classique, hellénistique et romaine. Les Romains se servaient beaucoup de marbre de Thasos, parce que comme tous les marbres égéens, c'était un marbre translucide. Alors, voir une baignoire en marbre de Thasos, le marbre brillait, tandis que le marbre de Carrare, qui est le marbre romain par excellence, est un marbre mort, qui ne brille pas, que l'eau ne rend pas éclatante. Tandis que, vraiment, ces carrières d'Aliki avaient ce marbre qu'on trouve en Proconèse également, qui est un marbre translucide dès qu'il est un peu mouillé. Et alors, on a découvert qu'il y avait eu non seulement ces phases que j'ai énumérées, mais qu'il y avait une reprise très forte à l'époque chrétienne. On a trouvé des inscriptions qui étaient peintes au minium aussi. Et donc, on a compris que jusqu'à l'époque d'Héraclius, il y avait eu du marbre thasien qui avait été travaillé et exporté dans tout le bassin méditerranéen. On en a retrouvé des traces à Ostie, partout, au Proche-Orient. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que sur le site d'Aliki où je travaillais, il y avait également du marbre de Proconèse qui était arrivé. Donc, il faut imaginer qu'il y avait des collègues carriers de Proconèse qui leur avaient dit « on va vous faire une fleur pour votre sanctuaire, votre clôture de sanctuaire, on va vous envoyer des chapiteaux à double zone ». Et c'est un fait qu'il y a des inscriptions en Crète où on voit par exemple qu'un carrier a une femme qui vient de l'île de Proconèse ou qui est constantinopolitaine. Donc, on a là un carrier, ce n'est pas le matériel qui a été expédié par bateau, mais c'est le carrier qui s'est établi ailleurs. Et ces exemples peuvent être multipliés, sont maintenant bien, bien connus. Donc, c'est un type d'échange lourd qu'on n'imaginait pas. Pareil pour le Proconèse, que vous trouvez du marbre Proconèse partout, ou ces imitations, là aussi, c'est un autre domaine. Et vous pouvez penser que pour les amphores, pour tous les produits maintenant, les amphores sont intéressantes parce qu'elles ont un contenu. Donc, on peut identifier à partir du contenant le contenu. Et ça permet d'évaluer les échanges parce que les types d'amphores ont des modules bien précis. Donc, vous pouvez évaluer, non pas les quantités absolues, parce que vous ne retrouverez jamais toutes les amphores qui correspondent à tel échange, mais ça vous donne une idée statistiquement floue, mais enfin, quand même intéressante sur les échanges, parce que vous avez le contenu.
Évidemment, parce que vous saviez quel était le produit et puis aussi d'où venait.
Oui, parce que maintenant, on peut faire
La céramique elle-même.
On a les fours. Il y a des analyses qui ont été faites des résidus qui étaient sur les parois internes. Et on peut mettre en évidence s'il s'agit d'huile, parce que vous avez un corps graisseux qui reste, quand c'est dentaire ou quand la céramique est trouvée en mer. Parce que là, les résines, par exemple, qui disparaissent quand l'objet est enfoui en terre, reste dans la mer. Alors, si vous avez la résine dans votre amphore, c'est du vin, comme le fameux résiné grec, si vous voulez, encore actuellement. Quand vous n'avez pas de résine, à ce moment-là, vous pouvez supposer que c'était de l'huile. Alors, vous avez d'autres produits, vous avez les sauces de garum aussi. Mais là, vous pouvez trouver, si c'est une amphore qui garde du résidu, vous pouvez trouver des arêtes de poisson. Ou bien, vous pouvez avoir, si vous avez des dattes, vous pouvez trouver des restes de régime de dattes. Il y a tout un travail qui est très dur, qui permet aussi de retrouver les contenus.
Mais je pensais tout à l'heure aussi au fait que si on étudie l'argile avec laquelle les amphores ont été faites, on peut parfois avoir des surprises et se rendre compte que les amphores viennent de l'autre bout du bassin méditerranéen.
Absolument. Disons que les surprises du début se sont espacées maintenant. On n'a plus de grosses surprises, on sait à peu près les régions. Mais vous avez une multitude de fours en grappe qui produisent. Une amphore n'est pas produite jusque dans une seule région. Elle est produite dans différentes régions proches. Ça peut être, par exemple, pour des amphores faites de Syrie qui transportaient du vin. Ça peut être la côte syrienne, la côte du sud de la Turquie. Et ça peut même aller, par exemple, jusqu'à l'île de Rhodes. Donc là, vous avez une région où vous avez des dizaines de petits fours et tous les villages produisaient du vin et exportaient avec ce type de conteneur. Alors, vous pouvez étudier des variantes de forme, vous pouvez étudier des variantes de pâte et vous pouvez même raffiner pour savoir de quelle région, c'est plus difficile, mais de quelle région précise à l'intérieur de ces micro-régions vient l'argile.
Oui, c'est ça. Nous venons de parler du domaine profane, on va parler maintenant plus sacré et on va parler du christianisme proto-byzantin dans lequel un saint homme s'appelle Siméon Stylite sur sa pierre. Alors qui est-il? Comment vivait-il vraiment au sommet de sa colonne? Vivait-il vraiment au sommet de sa colonne et quel impact a-t-il eu autour? A-t-il eu des émules? A-t-il eu des successeurs?
Alors, là aussi, c'est un phénomène. On a parlé du monachisme, c'est de là qu'il faut partir. Donc, vous avez eu des moines en Égypte, vous en avez eu autour de Jérusalem, dans le désert de Judée, et vous en avez eu partout. En Gaule, vous avez eu aussi, à partir des îles de l'Hérens, c'est tout un Cassien, tout un monachisme. Mais le monachisme est né d'Orient. Il y aurait d'ailleurs des liens à établir avec l'Extrême-Orient, parce que là, c'est là aussi où vous trouvez des quantités de moines. Et ce n'est pas quelque chose d'occidental. Alors disons, de cette naissance, en tout cas, peu importe, de cette naissance au Proche-Orient, donc se sont développés à partir de là des centres, des écoles monastiques. Et le monachisme syrien était très intéressant parce que c'est un monachisme vraiment de torture où on demande au corps des choses impossibles. Et avant même Siméon, vous aviez eu des ermites qui se faisaient enfermer, qui jeûnaient, qui pratiquaient une position immobile, etc. Mais Siméon, il s'est imposé très tôt. Il a été chassé de son monastère, qui était à 20 km de l'endroit où maintenant vous avez le monastère de Siméon, qui était le monastère de Téléda.
Il est mort en 459.
Donc il a été chassé quand il faisait ses classes de moine, parce que les autres moines ne supportaient pas ses pénitences. D'une part, il mangeait 20 fois moins qu'eux, ce qui fait qu'il passait pour glouton. Alors, ils l'ont accusé de dissimuler, de se relever la nuit pour manger. D'autre part, il dégageait une sorte de puanteur horrible et il accusait d'être sale. Mais enfin, ce n'est pas un défaut pour les moines. Mais on s'est aperçu, l'odeur était telle qu'en soulevant sa tunique, on s'est aperçu qu'il s'était enrobé le corps de cordes et que la corde avait pénétré dans son corps. Donc, à la suite de ses démêlés avec ses collègues moines, il a préféré partir. Et donc, il a fait 20 km et donc il s'est installé dans le village qui s'appelait Telnéché, Telanissos, qui était le village. Et puis, au-dessus, il y avait une petite croupe et c'est là où il s'installera sur sa colonne. La colonne n'est pas née tout de suite. Les vies, on a des textes qui sont magnifiques, en particulier la vie syriaque qui a été écrite. On a une copie de 474. Et qui n'est qu'une copie, donc un original qui pouvait être entre 459 et 474. Vous savez, les gens ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Si, ils racontent des histoires de moines avec des miracles, mais ça, c'est la mentalité du lieu. Mais ça a un côté, un caractère d'authenticité. Ce n'est pas une vie réécrite, très loin. C'est la vie qui traduit la vie de Siméon dans le milieu.
Oui, ce n'est pas la légende dorée.
Voilà. Donc là, on a des bases et on peut comprendre, et ça éclaire aussi l'archéologie de certaines manières. Et même quelquefois de manière inattendue. Par exemple, on va... c'est un personnage un peu... Bon, on sait que Buñuel en a fait un film, sauf la fin qui est un peu, évidemment, assez, disons, anachronique, pour le moins. On voit bien que c'est un saint extraordinaire. Cette colonne, en particulier, est vraiment son invention. Alors, la vie syriaque dit que c'est parce qu'il était importuné par la masse des fidèles. En particulier, il y avait beaucoup de Sarrasins qui venaient donc de nomades de la région de l'Euphrate. Mais en fait, c'est autre chose. En fait, c'était évidemment la volonté de se rapprocher du ciel et donc d'ouvrir un dialogue avec le Dieu et de se placer...
un intermédiaire
absolument,
entre
absolument.
Dieu
ça a été
et
démontré
hommes.
Par un brillant historien américain qui est maintenant à Princeton, qui est Peter Brown, qui a montré que ces saints, les évêques, étaient déjà des intercesseurs entre la population chrétienne, leurs ouailles, disons, et les pouvoirs publics, parce que c'était le même milieu, les mêmes familles, donc ils arrivaient à avoir les liens. Lui avait la confiance des paysans, et c'était des saints qui, au fond, n'étaient pas attachés aux biens matériels, et qui pouvaient être l'avocat des pauvres et des exploités. Et c'est un côté réellement fort que les anecdotes liées autour de Saint-Siméon révèlent bien. Les riches sont châtiés, les pauvres, on restaure leurs biens, on les aide. C'est un monde un peu magique où, effectivement, tout se passe bien. Et donc, cette colonne qui monte petit à petit, un peu, on peut dire, puisqu'il y a 3 ou 4 colonnes, et qui finit par atteindre par 16 mètres, est le signal que Siméon est là, haut, qu'il est en contact avec le ciel, et qu'il a l'oreille de Dieu, si l'on peut dire, et que donc il est là pour faire régner la justice, le christianisme, il est contre les juifs, et donc un ordre qui soit l'ordre que Dieu attend de ses saints. Et c'est une histoire effectivement d'oreille. Il a des discussions avec Dieu, il a des apparitions d'anges, Dieu lui parle. Enfin, et donc la colonne a cette valeur symbolique, je suis absolument certain.
A-t-il eu des émules ?
C'est une activité très difficile.
Mais peut-être pas au-dessus de la colonne, mais dans les anachorètes...
Non, toute la région a eu des stylites, mais chaque fois, ça a été des expériences uniques. Il y a peu de cas, j'en connais pas, où un stylite a laissé sa colonne à un autre stylite. C'était des expériences uniques. Et on peut admettre que les personnages qui arrivaient à vivre ces vies étaient vraiment considérés comme des saints. Et c'était une époque où cette performance physique, qui était accompagnée de miracles, de tout un buzz, on dirait, de nos jours, impressionnait beaucoup les souverains. Pour peu que les souveraines n'arrivent pas à avoir d'enfants, elles venaient voir le saint et ça marchait, elles avaient un enfant. Les gens redoutaient beaucoup ces personnages qui étaient des hippies marginaux, sales, sans aucune convention, complètement en dehors du système des codes de bonne conduite. Ces personnages extraordinaires faisaient peur, étaient admirés, vénérés. Et pour la Syrie, vous voyez, il y a eu des conséquences. C'est-à-dire que là, on était dans une région qui était une région, j'ai expliqué, qui était peu peuplée avant l'arrivée de cette population qui a fait ses villages. Et le saint est venu un peu de ce milieu. Et donc, ces saints ont popularisé la région. Et la Syrie, qui était située à proximité des lieux saints de Jérusalem, s'est petit à petit inscrite dans le grand pèlerinage qui se faisait à partir de Constantinople par la route qui traversait toute l'Anatolie, qui descendait ensuite par Antioche, longeait la côte et arrivait ensuite jusqu'à Jérusalem. C'était devenu une sorte d'étape. Et donc, c'était devenu un lieu saint de niveau comparable finalement, au lieu saint de Jérusalem. Et donc, ça a apporté non seulement une réputation de sainteté, disons, un peu à la région, mais ça l'a fait connaître et ça a eu des conséquences économiques. Et c'est pour ça qu'après la mort du saint, le site s'est développé autour de la relique qui était la colonne.
Ils ont construit un martyrium.
Oui, oui. Et on sait comment ça s'est fait. Ça a été fait parce que l'empereur Léon, à qui le saint avait envoyé sa mélotte, sa tunique de berger, quand il est mort, donc avait voulu obtenir une relique peu de temps après, on sait à peu près la date, 468-470, et qu'il avait demandé à l'évêque d'Antioche. Celui-ci était gêné parce qu'ils avaient besoin de garder la force des reliques pour protéger la ville d'Antioche qui avait perdu les murailles, ses murailles en 540, et donc qui, les murailles étaient en train d'être construites, mais enfin ils étaient un peu quand même sur la réserve, et en particulier, ils ont récupéré toute la relique du saint. Il n'est rien resté aux moines que la colonne. Donc c'est eux qui avaient la relique. Et il est probable que le patriarche d'Antioche, sans rien dire à sa population, et ni peut-être même en mettant dans la confidence le minimum d'évêques et des prêtres qui l'entouraient, a envoyé ses reliques. Parce que les sources d'Antioche ne mentionnent pas ces reliques, mais on sait qu'elles sont arrivées à Constantinople, et on sait qu'elles ont été mises dans un endroit où se tenait un des disciples de Siméon, qui était Daniel, là aussi avec une très belle vie, donc une vie tout à fait crédible. Donc on est sûr du fait. Et à ce moment-là, en contrepartie de la relique, l'empereur a financé la construction de Saint-Siméon. Et donc, il a dû débloquer les crédits, ou vous savez, il ne débloque pas les crédits, c'est-à-dire qu'il empêchait, à l'époque, bon, il n'y avait pas trop de transfert de fonds, ça consistait simplement à dispenser, à distraire de l'argent qui devait revenir au pouvoir constantinopolitain, la somme qui était destinée à construire Saint-Siméon. Et donc, cet argent a été très important des années 470 à 474. Et c'est là où s'est construit l'essentiel de Saint-Siméon, ce fameux martyrium, et puis le baptistère, parce qu'on trouve que c'est les mêmes équipes. Enfin, on a des... Là aussi, les pierres parlent.
Les pierres parlent. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez évoquer comme parole des pierres ?
Elle raconte énormément pour les traditions, pour le maintien d'une certaine culture. Elle raconte aussi le niveau économique. Elle raconte aussi les échanges. Elles évoquent au fond toute une culture qui est liée à l'Antiquité, mais elles développent aussi les fléchissements, les changements. Et évidemment, les plans traduisent l'évolution des mentalités. Au fond, l'urbanisme, l'architecture, c'est une autre manière d'étudier l'histoire des mentalités. Tout comme quand on étudie les formes des peaux, on peut déterminer quelle est la cuisine dominante, quel est le mode d'alimentation. Et on peut par là aussi reconstituer la mentalité ou une partie des goûts au moins de la population.
C'est donc un outil très précieux pour l'histoire parce que, bien sûr, c'est un lieu commun, mais elle apprend l'histoire des événements puisque vous nous dites, on a pu constater qu'à tel jour, tel moment, telle année, il s'est passé ça, mais aussi l'histoire des mentalités.
Absolument, absolument. Et vous pouvez avoir aussi, alors nous, on est un peu en retard là, mais nous avons fait les prélèvements, vous pouvez reconstituer aussi l'histoire du milieu. C'est-à-dire que les cultures que vous avez...
Les graines.
Les graines parlent aussi. Donc, on sait par exemple que vous avez eu un paysage qui était un paysage de culture importante avec donc, la triade méditerranéenne, c'est-à-dire le blé, la vigne et l'olivier jusqu'au 6e, 7e. Après qu'on voit apparaître des graines d'herbe, des pollens plutôt, d'herbe ou de graminées, enfin qui sont... Et puis, vous voyez apparaître au Xe siècle un siècle de ce qu'on appelle de reconquête. C'est-à-dire que là, on devine qu'il y a à nouveau des cultures autour de Saint-Siméon. Bon, on n'en sait pas plus pour l'instant parce qu'il faudrait reprendre. Et alors, les poissons, c'est pareil. On peut identifier les poissons, on peut identifier... C'est le poisson-chat, en gros, qui est un gros poisson des fleuves de Syrie encore maintenant, quand ils ne sont pas pollués. Et puis, vous avez le bétail, vous avez... Pour reconstituer absolument tout. Et à propos de poissons, justement, une des premières choses qui m'a rappelé un film de Kusturica, c'est sur ces eulogies de Siméon. On voit apparaître, on a le Siméon, les deux anges, et on a ensuite un cantare qui représente peut-être le vin. Et à côté, on a un poisson qui pend. Et ce poisson, il a été trouvé dans la vie de Siméon, dans la vie syriaque. On raconte que Siméon, au début, quand il s'intéressait un peu au christianisme, a trouvé sur son chemin un poisson qui lui barrait la route, un poisson énorme. Ce poisson énorme, c'est intéressant. Déjà, la taille est impressionnante, renvoie à des poissons-chats. Les vieux poissons-chats peuvent faire jusqu'à 300 kilos. Et c'est intéressant parce que ça relie le miracle à une espèce de poisson. Alors, bon, c'est peut-être un miracle, peut-être c'est un signe de Dieu, comme il l'a cru. Mais pour nous, ça renvoie à l'espèce de poisson qu'il trouvait dans ses rivières autour de chez lui. Donc, tout peut parler. C'est une affaire d'astuce et de savoir croiser toutes les sources. Au fond, c'est une sorte d'enquête, finalement. Peut-être pas policière, mais c'est vraiment une enquête très intéressante. Et pour peu qu'on soit honnête, qui peut révéler des tas de choses. Il ne faut pas être pressé, mais on peut arriver à trouver vraiment une source historique qui soit complémentaire des sources écrites.
Oui, c'est une vraie science historique. Merci Jean-Pierre Sodini d'être venu jusqu'à nous.
Merci madame.